Chapitre 5. Un piqueur à la livrée de son Altesse Sérénissime, Monseigneur le Duc d'Orléans. Pendant que les choses que nous venons de raconter se passaient dans le pavillon de l'hôtel du Tigre Royal, dans une chambre de l'hôtel même, un homme assis près d'un grand feu secouait ses bottes couvertes de neige et détachait les cordons d'un large portefeuille. Cet homme était vêtu d'un costume de piqueur à la livrée de chasse de la maison d'Orléans, habit rouge et argenté, culotte de peau, longues bottes, chapeau à trois cornes galonné d'argent. L'œil vif, le nez long, pointu et bourgeonnant, le front bombé et plein d'une franchise que démentaient ses lèvres minces et serrées. Il feuilletait avec soin, sur une table posée devant lui, les papiers dont le portefeuille était gonflé. Et cet homme, par une habitude qui lui était particulière, parlait tout seul, ou plutôt il marmottait entre ses dents des phrases. « Allons, allons, disait-il, monsieur de Montaran ne m'a point trompé, et voilà mes Bretons à la besogne. Mais comment diable est-il venu à si petite journée? Parti le 11 à midi, arrivé le 21 à 6 heures du soir seulement. Cela me cache probablement quelque nouveau système que va m'éclaircir le garçon que m'a recommandé monsieur de Montaran et avec lequel mes gens se sont mis en rapport tout au long de la route. Oh là, quelqu'un !» Et en même temps, l'homme à l'habit rouge agita une sonnette d'argent. Un de ces coureurs vêtus de gris que nous avons remarqué sur la route de Nantes parut et salua. « Ah, c'est vous, Tapin, » dit l'homme à l'habit rouge. « Oui, monseigneur, l'affaire étant importante, j'ai voulu venir en personne. Vous avez interrogé les hommes que vous aviez placés sur la route. Mais un de ces niais malins, moitié normand, moitié breton, une mauvaise pratique en somme. Que fait-il en ce moment? Il sert le souper de son maître, qu'on a placé, comme je l'ai dit, dans une chambre au rez-de-chaussée. Oui, monseigneur. Dans une chambre sans rideau. Oui, monseigneur. Et vous avez fait un trou au contrevent? Oui, monseigneur. Bien, envoyez-moi ce valet et tenez-vous toujours prêt à la portée de la main. » L'homme à l'habit rouge tira de son gousset une montre de prix qu'il consulta. « 8 heures et demie, dit-il. À 7 heures, monseigneur est de retour de Saint-Germain et demande du bois. Or, comme on lui dit que du bois n'y est pas, il se frotte les mains et s'apprête à faire quelque folie. Frottez-vous les mains, monseigneur, et faites votre escapade à loisir. Ce n'est pas à Paris qu'est le danger, c'est ici. Ah, nous verrons si cette fois vous vous moquerez encore de ma police secrète. Ah, voilà notre homme. » En effet, en ce moment, monsieur Tapin introduisait Oven. « Voici la personne demandée, dit-il, et, fermant la porte, il se retira aussitôt. Oven resta debout et tremblant à la porte, tandis que Dubois, enveloppé dans un grand manteau qui ne laissait voir que le haut de sa tête, fixait sur lui ses yeux de chat-tigre. « Approche, mon ami, dit Dubois. » Malgré la cordialité de cette invitation, elle était faite d'une voix si stridente qu'Oven eût fort désiré être pour le moment à 100 lieues de cet homme qui le regardait d'une si étrange façon. Oven fit quelques pas vers la table. « Tu as reçu 50 louis pour me dire la vérité, » continua Dubois. « Pardon, monseigneur, » répondit Oven, à qui cette interrogation presque affirmative rendit une partie de sa hardiesse. « Je ne les ai pas reçus, on me les a promis. » Dubois tira une poignée d'or de sa poche, compta 50 louis et en fit une pile qu'il posa sur la table, où elle demeura tremblante et inclinée. Oven regarda cette pile d'or avec une expression qu'on eût crue étrangère à ce regard terne et voilé. « Bon, dit Dubois, il est avare. » C'est qu'en effet, ces 50 louis avaient toujours paru à Oven féerique et invraisemblable. Il avait trahi son maître sans les espérer, rien qu'en les désirant. Et cependant, les 50 louis promis étaient là, devant ses yeux. « Est-ce que je puis les prendre ?» demanda Oven en étendant la main vers la pile d'or. « Un instant, » dit Dubois, qui s'amusait à exciter cette cupidité que l'homme des villes lui cachait sans doute, mais que le paysan montrait à découvert. « Un instant, nous allons faire un marché. »« Lequel ?» dit Oven. « À chaque réponse que tu feras à mes questions, si la réponse est importante, j'ajoute 10 louis. » si elle est ridicule ou stupide, j'en ôte 10. » Bovène ouvrit de grands yeux. Le marché lui paraissait évidemment arbitraire. « Maintenant causons, » dit Dubois. « D'où viens-tu »«
De Nantes, en droite ligne. »«
Avec qui ?»« Avec monsieur le chevalier Gaston de Chanlay. » Cet interrogatoire se composant évidemment de questions préparatoires, la pile restait la même. «
Attention, » dit Dubois, en allongeant sa main maigre à la portée des louis.
« J'écoute de toutes mes oreilles, » répondit Oven.
Ton maître voyage-t-il sous son nom ?»«
Il est parti sous son nom, mais il en a pris un autre en route. »«
Lequel ?»«
Le nom de monsieur de Livry. »
Dubois ajouta, dit Louis, mais comme il ne pouvait tenir sur la pile déjà trop haute, il en forma une seconde qu'il plaça près de la première.
Oven jeta un cri de joie.
« Oh, dit Dubois, ne te réjouis pas encore, nous sommes pas au bout. Attention, y a-t-il un monsieur de Livry à Nantes ?»«
Non, monseigneur, mais il y a une demoiselle de Livry. »«
Qu'est-ce que cette demoiselle ?»
La femme de monsieur de Montlouis, un ami intime de mon maître.
Bon, dit Dubois, en ajoutant, dit Louis, et que faisait ton maître à Nantes?
Il faisait ce que font les jeunes seigneurs, il chassait, il faisait des armes, il allait au bal.
Et Dubois retira, dit Louis. Oven sentit un frisson qui lui courait par tout le corps.
Attendez donc, dit-il, il faisait encore autre chose.
Ah, voyons, dit Dubois, que faisait-il?
Il sortait la nuit, une ou deux fois par semaine, quittant la maison à 8 heures du soir et ne rentrant d'habitude qu'à 3 ou 4 heures du matin.
Bon, fit Dubois, et où allait-il?
Ça, je n'en sais rien, répondit Oven.
Dubois garda les 10 louis dans sa main.
Et depuis son départ, continua Dubois, qu'a-t-il fait?
Il a passé par Oudon, par Ancenis, par Le Mans, par Nogent et par Chartres.
Dubois allongea la main et de ses doigts pointus pinça 10 autres louis. Oven poussa un cri de sourde douleur.
« Et en route ?» demanda Dubois. « N'a-t-il fait connaissance avec personne ?»«
Avec une jeune pensionnaire des Augustines de Clisson, laquelle voyageait avec une sœur du couvent nommée sœur Thérèse. »
Et comment appelait-on cette pensionnaire?
Mademoiselle Hélène de Chaverny.
Hélène, le nom promet. Et sans doute, cette belle Hélène est la maîtresse de ton maître.
Dame, moi, je n'en sais rien, répondit Oven. Vous comprenez qu'il ne me l'a pas dit.
Il est plein d'esprit, dit Dubois, en attaquant la pile et en retranchant 10 louis des 50.
Une sueur froide coulait sur le front d'Oven. 4 réponses comme celle-là, et il avait trahi son maître pour rien.
« Et ces dames vont à Paris avec lui ?» continua Dubois.
« Non, monsieur, elles s'arrêtent à Rambouillet. »«
Ah !» fit Dubois. L'exclamation parut de bon augure à Oven.
« Et même, continua-t-il, la bonne sœur Thérèse est déjà repartie. »
« Allons, dit Dubois, tout ceci n'est pas d'une grande importance, mais il ne faut pas décourager les commencements. » Et il ajouta 10 louis à la pile.
De sorte, reprit Dubois, que la jeune fille est restée seule ?»«
Non pas, dit Oven.
Comment non pas? Une dame de Paris l'attendait.
Sais-tu son nom ?»«
J'ai entendu sœur Thérèse l'appeler Madame Desroches. »«
Madame Desroches !» s'écria Dubois. Et il recommença une autre pile de 10 louis.
« Tu dis, Madame Desroches ?»«
Oui, reprit Oven, rayonnant.
« Tu en es sûr ?»«
Par Dieu, si j'en suis sûr, à preuve que c'est une femme grande, maigre et jaune. »
Dubois ajouta 10 louis. Oven se repentit alors de ne pas avoir mis un intervalle entre chaque épithète. Il était évident qu'il avait perdu 20 louis à sa précipitation.
« Grande, maigre et jaune, répéta Dubois, c'est bien cela. »«
40 à 45 ans, ajouta Oven en attendant cette fois. »«
C'est bien cela, répéta Dubois en ajoutant 10 autres louis. »«
Habillée d'une robe de soie à grandes fleurs, continua Oven qui voulait tirer parti de tout. »«
C'est bien, reprit Dubois, c'est bien. »
Oven vit que son interrogateur en savait assez sur la femme et il attendit.
Et tu dis que ton maître a fait connaissance avec cette demoiselle en route? C'est-à-dire, monsieur, maintenant que j'y pense, je crois que la connaissance était une comédie. Que veux-tu dire? Je crois qu'ils se connaissaient avant de partir, et tenez, même j'en suis sûr, c'est elle que mon maître a attendu 3 heures à Oudon. Bien, dit Dubois, en ajoutant, dit Louis, allons, allons, on fera quelque chose de toi. Vous ne voulez plus rien savoir, dit Yovène en étendant la main vers les deux piles qui lui offraient 30 louis de bénéfice, avec la figure d'un joueur qui désire faire Charlemagne. Un instant, dit Dubois, la jeune fille est jolie, comme un ange, dit Oven. Et sans doute ils se sont donné rendez-vous à Paris, ton maître et elle. Non, monsieur, je crois au contraire qu'ils se sont dit adieu pour toujours. Comédie, toujours. Je ne crois pas, monsieur de Chanlay était trop triste quand ils se sont quittés. Et s'ils ne doivent pas se revoir, si fait, une dernière fois encore, je crois, et tout sera fini. Allons, prends ton argent, et souviens-toi que si tu dis un mot, 10 minutes après, tu es mort. Oven sauta sur les 80 louis qui disparurent à l'instant, engloutis dans la poche profonde de sa culotte. Et maintenant, dit-il, je puis me sauver, n'est-ce pas? Te sauver, imbécile? Non pas. À partir de ce moment, tu m'appartiens, car je t'ai acheté, et c'est à Paris surtout que tu me seras utile. En ce cas, je resterai, monsieur, je vous le promets, dit Oven en poussant un profond soupir. Tu n'as pas besoin de le promettre, va. En ce moment, la porte s'ouvrit et monsieur Tapin reparut, le visage fort ébouriffé. Qu'y a-t-il de nouveau? Demanda Dubois, qui se connaissait en visage. Une chose fort importante, monseigneur, mais éloignez cet homme. « Retourne auprès de ton maître, dit Dubois, et s'il écrit à qui que ce soit, souviens-toi que je suis on ne peut plus curieux de connaître son écriture. » Oven, enchanté d'être libre pour le moment, salua et sortit. « Eh bien, monsieur Tapin, dit Dubois, qu'y a-t-il, voyons ? Il y a, monseigneur, qu'après la chasse de Saint-Germain, son Altesse royale, au lieu de retourner à Paris, s'est contenté d'y renvoyer ses équipages et a donné l'ordre de partir pour Rambouillet. » Et que vient-il faire à Rambouillet? Je n'en sais rien, monseigneur, à moins que ce ne soit pour cette jeune fille qui vient d'arriver avec une religieuse et qui est logée dans le pavillon de l'hôtel. Vous avez raison, Tapin, c'est pour elle-même. Madame Desroches, c'est bien cela. Saviez-vous que Madame Desroches était ici? Non, monseigneur, je l'ignorais. Et vous êtes sûr qu'il va venir? Vous êtes sûr qu'on ne vous a pas fait un faux rapport, mon cher Tapin? « Oh, monseigneur, c'est l'éveillé que j'avais lâché après son Altesse royale. Ce que l'éveillé dit, voyez-vous, c'est l'évangile. »« Mon cher, continua Dubois, vous connaissez la disposition du pavillon, n'est-ce pas ?»« À merveille. »« Quelle est-elle ? » ?»« Il donne d'un côté sur la seconde cour de l'auberge, de l'autre côté sur une ruelle déserte. » Des hommes dans cette cour, des hommes dans cette ruelle, déguisés en palefreniers, en valets d'écurie, comme vous voudrez, qu'il n'y ait que monseigneur et moi qui puissions entrer dans ce pavillon, monsieur Tapin. Il y va de la vie de son Altesse royale. Soyez tranquille, monseigneur. Ah, vous connaissez notre Breton? Je l'ai vu descendre de cheval. Vos hommes le connaissent? Mais tous, ils l'ont vu sur la route. Bien, je vous le recommande. Faut-il l'arrêter? « Peste, gardez-vous-en bien, monsieur Tapin, il faut le laisser aller, il faut le laisser faire, il faut lui donner beau jeu, afin qu'il fasse, qu'il agisse. Si nous l'arrêtions maintenant, il ne dirait rien et notre conspiration avorterait. Peste, pas de cela, il faut qu'elle accouche. »« De quoi, monseigneur ?» demanda Tapin, qui paraissait avoir avec Dubois certaines privautés. « De ma mitre d'archevêque, monsieur Lecoq, dit Dubois, et maintenant, allez à votre affaire, moi je vais à la mienne. » Et tous deux quittèrent la chambre et descendirent rapidement l'escalier. Mais à la porte ils se séparèrent, Lecoq remontant précipitamment la ville en suivant la rue de Paris, et Dubois se glissant contre la muraille pour aller appliquer son œil de lynx au trou du contrevent. Gaston venait de souper. car à son âge, fût-on amoureux, fût-on désespéré, la nature ne perd jamais ses droits, et il n'y a que les gens qui ont mauvais estomac qui, à 25 ans, ne soupent pas, plus ou moins. Il était appuyé sur la table et réfléchissait. La lumière de la lampe se reflétait tout entière sur son visage et servait à souhait la curiosité de Dubois. Et tout en regardant, celui-ci murmurait selon son habitude, « Jeune, beau, l'œil noir, la lèvre orgueilleuse, c'est un breton. Celui-là ne s'est pas encore corrompu, comme mes conspirateurs de Selamar aux douces œillades des dames de la cour. Aussi, comme il y va le démon. Les autres ne parlaient que d'enlever, de détrôner, fadaise, tandis que celui-ci, diable !» Et cependant, continuait Dubois, après une pause, je cherche en vain la ruse sur ce front pur, le machiavélisme sur les coins de cette bouche pleine de loyauté et de confiance. Il n'y a pourtant plus de doute à avoir, tout est arrangé pour surprendre le régent dans son rendez-vous avec la Vierge de Clisson. Ah, qu'on dise à présent que ces Bretons sont des têtes obtuses, décidément. Continua Dubois après un autre moment d'examen. « Ce n'est pas cela, je n'y suis point encore. Il est impossible que ce jeune homme à l'air triste, mais calme, s'apprête à tuer un autre homme dans un quart d'heure. Et quel homme, le régent de France, le premier prince de sang? Non, c'est impossible, et un pareil sang-froid ne se comprendrait pas. Et pourtant, ajoutait Dubois, c'est bien cela, le régent me fait secret de cette nouvelle amourette, à moi, à qui il dit tout. Il va chasser à Saint-Germain, annonce hautement qu'il viendra coucher au palais royal, puis tout à coup donne un contre-ordre et indique Rambouillet à son cocher. C'est à Rambouillet que la jeune fille attend, elle est reçue par Madame Desroches, qu'attend-elle si ce n'est le régent? Et cette jeune fille est la maîtresse du chevalier. Mais aussi, est-elle sa maîtresse? Ah, nous allons le savoir. Voilà notre ami Oven, qui, après avoir été mettre en sûreté ses 80 louis, apporte du papier et de l'encre à son maître. Il va écrire. À la bonne heure, nous saurons donc quelque chose de positif. Et maintenant, reprit Dubois, voyons jusqu'à quel point nous pouvons compter sur ce maraud de valet. Et il quitta son observatoire tout grelottant, car ainsi qu'on se le rappelle, il ne faisait pas chaud. Dubois s'arrêta dans l'escalier et attendit. Du degré où il se trouvait entièrement caché dans l'ombre, il découvrait la porte de Gaston toute dans la lumière. Au bout d'un instant, la porte s'ouvrit et Oven parut. Il demeura une seconde sur la porte, tournant et retournant sa lettre entre ses mains, et puis il parut prendre son parti et monta l'escalier. « Bon, dit Dubois, s'il a mordu aux fruits défendus, et maintenant il est à moi. » Et puis, arrêtant Oven sur l'escalier, « C'est bien, dit-il, donne-moi la lettre que tu m'apportais, et attends ici. »«
Comment savez-vous que je vous portais une lettre ?» dit Oven, tout ébahi.
Dubois haussa les épaules, lui prit la lettre des mains et disparut. Rentré dans sa chambre, Dubois examina le sceau. Le chevalier, qui n'avait ni cire ni cachet, s'était servi de la cire de la bouteille et avait appuyé le chaton d'une bague sur la cire. Dubois abaissa doucement la lettre au-dessus de la flamme de la bougie et le cachet fondit. Alors il ouvrit la lettre et lut ce qui suit. « Chère Hélène, votre courage a doublé le mien. Faites que je puisse entrer dans la maison et alors vous saurez quels sont mes projets. »« Ah ah !» dit Dubois, « il paraît qu'elle ne laissait pas encore. Allons, les choses ne sont pas si avancées que je le croyais. » Il recacheta la lettre, choisie parmi les nombreuses bagues dont ses doigts étaient chargés, et qu'il portait peut-être à cet effet un chaton à peu près pareil à celui du chevalier, et, ayant approché de nouveau la cire de la bougie, il recacheta fort proprement la lettre. « Tiens, dit-il à Oven en la lui rendant, voici la lettre de ton maître, va la porter fidèlement. Rends-moi la réponse et je te donne 10 louis. »
« Ah, ça !» se dit Oven en lui-même, « cet homme a donc une mine d'or !» Et il partit en courant.
10 minutes après, il était de retour avec la lettre attendue. Celle-ci était écrite sur un joli petit papier parfumé et cachetée d'un cachet chargé de la seule lettre H. Dubois ouvrit une boîte, en tira une espèce de pâte, qu'il se mit à pétrir pour prendre l'empreinte du sceau. Mais en se livrant à cette occupation, il s'aperçut que la lettre était pliée de façon qu'on pouvait parfaitement, sans la décacheter, lire ce qu'elle contenait. « Allons, dit-il, c'est plus commode. » Et il fit bâiller la lettre et lut ce qui suit. « La personne qui me fait venir de Bretagne vient de son côté au-devant de moi. Au lieu de m'attendre à Paris, tant elle est impatiente, dit-elle, de me voir, je pense qu'elle repartira cette nuit. Venez demain matin, avant 9 heures, je vous dirai tout ce qui se sera passé entre elle et moi, et nous verrons alors de quelle façon nous devons agir. » Ceci, dit Dubois, suivant toujours son idée qui faisait d'Hélène la complice du chevalier, me paraît plus clair. Mais peste, quelle jeune personne délurée! Si c'est comme cela qu'on les élève aux Augustines de Clisson, j'en ferai mon compliment à la supérieure. Et monseigneur qui, sur ses 16 ans, va prendre cela pour une ingénue. Oh, il me regrettera. Je trouve mieux quand je cherche. « Tiens, dit-il à Oven, voici tes 10 louis et ta lettre. Tu vois que c'est tout bénéfice. » Oven empocha les 10 louis et porta la lettre. L'honnête garçon n'y comprenait rien et demandait ce que lui réservait Paris, puisqu'une pareille manne tombait déjà dans les faubourgs. En ce moment, 10 heures sonnaient, et au bruit monotone et lent de l'horloge se mêlait le roulement sourd d'une voiture qui s'approchait avec fracas. Dubois se mit à sa fenêtre et vit la voiture s'arrêter à la porte de l'hôtel. Dans cette voiture se prélassait un gentilhomme fort convenable, qu'au premier coup d'œil Dubois reconnut pour Lafare, le capitaine des gardes de son Altesse royale. « Allons, allons, dit-il, il est encore plus prudent que je ne le croyais. Mais où est-il, lui ?»« Ah !» Cette exclamation lui était arrachée par la vue d'un piqueur vêtu de la même livrée rouge qu'il cachait lui-même sous le grand manteau dans lequel il était enveloppé, et qui suivait la voiture sur un magnifique genet d'Espagne, sur lequel il n'était monté que depuis peu d'instants. Car tandis que, malgré le temps glacé qu'il faisait, les chevaux de la voiture étaient couverts d'écume, celui-là était à peine en haleine. La voiture s'était arrêtée à la porte de l'hôtel et tout le monde s'empressait autour de Lafare, qui faisait le gros dos, demandant tout haut un appartement et un souper. Pendant ce temps, le piqueur descendait de cheval, jetait la bride aux mains d'un page et s'acheminait vers le pavillon. « Bien, bien, dit Dubois, hein, tout cela est limpide comme de l'eau de roche. Mais comment, dans tout cela, n'a-t-on pas aperçu la figure du chevalier ?» Tout en monologuant, Dubois était descendu et avait repris place à son observatoire. Au moment où il approchait l'œil du contrevent, Gaston, après avoir enfermé son billet dans son portefeuille, qu'il remit avec grand soin dans sa poche, se leva. « Ah, sans Dieu, dit Dubois, en étendant instinctivement vers le chevalier et ses griffes qui ne rencontrèrent que la muraille, « sangleux, c'est ce portefeuille-là qu'il me faudrait. Ah, ce portefeuille-là, je le paierai cher. Ah, il s'apprête à sortir, notre gentilhomme. Il boucle son épée, il cherche son manteau. Fou va-t-il? Voyons cela. Attendre. » Son Altesse royale à la sortie. Non, mordieu, non, ce n'est point là la figure d'un homme qui touche au moment d'en tuer un autre, et je serais plutôt tenté de croire que pour ce soir il se contentera de faire l'espagnol sous les fenêtres de sa belle. Dubois fit rapidement le tour de l'hôtel afin de se présenter à une extrémité de la ruelle, tandis que le chevalier se présenterait à l'autre, en supposant que Gaston sortit pour se promener purement et simplement sous les fenêtres de sa maîtresse, ce que paraissait du reste indiquer l'expression triste mais calme de son visage. Dubois ne s'était pas trompé. À l'entrée de la ruelle, il trouva maître Tapin, et qui, après avoir chargé l'éveillé de l'intérieur de la cour, s'était mis en sentinelle à l'extérieur. En 2 mots, il lui mit au courant de son projet. Celui-ci lui montra du doigt un de ses hommes couché sur les degrés d'une porte extérieure, tandis qu'un troisième, assis sur une borne, raclait une espèce de guimbarde selon la coutume des chanteurs ambulants qui vont demander l'aumône dans les auberges. Un quatrième devait être encore dans quelque autre endroit, mais il était si bien caché qu'on ne l'apercevait même pas. Dubois, sûr d'être soutenu, s'enveloppa jusqu'au nez dans son manteau et s'aventura dans la ruelle. À peine avait-il fait quelques pas dans cette espèce de coupe-gorge qu'il aperçut une ombre qui s'avançait à l'autre extrémité. Cette ombre avait tout l'air de la personne que cherchait Dubois. Effectivement, à la première fois que les deux hommes passèrent l'un à côté de l'autre, Dubois reconnut le chevalier. Quant à celui-ci, préoccupé de ses pensées, il ne chercha même pas à savoir qui l'avait croisé, et peut-être même n'avait-il pas vu qu'on le croisait. Ce n'était pas l'affaire de Dubois. Il avait besoin d'une belle et bonne querelle, et voyant qu'on ne la lui cherchait pas, il résolut de prendre l'initiative. À cet effet, il revint sur ses pas et, s'arrêtant devant le chevalier, qui, arrêté lui-même, cherchait à distinguer lesquelles des quatre ou cinq fenêtres donnant sur la ruelle étaient celles de la chambre qu'habitait en ce moment Hélène. « L'ami, lui dit-il d'une voix rauque, que faites-vous, s'il vous plaît, à cette heure devant cette maison ?» Gaston baissa les yeux du ciel à la terre et, de la poésie de ses pensées, retomba dans le matérialisme de la vie. « Plaît-il, monsieur ? Dit-il à Dubois, je crois que vous m'avez parlé. »« Oui, monsieur, répondit Dubois, je vous ai demandé ce que vous faisiez là. » »« Passez votre chemin, dit le chevalier, je ne m'inquiète pas de vous, ne vous inquiétez pas de moi. » »« Cela pourrait se faire ainsi, dit Dubois, si votre présence ne me gênait point. » Cette ruelle, tout étroite qu'elle soit, est assez large pour nous deux, monsieur. Promenez-vous d'un côté, et je me promènerai de l'autre. » « Mais il me plaît de m'y promener seul à moi, dit Dubois. Je vous inviterai donc à aller à d'autres croisées que celle-ci. Il n'en manque pas à Rambouillet. Choisissez. »« Et pourquoi ne pourrais-je pas regarder ces croisées s'il me convient ?» répondit Chanlay. « Parce que ce sont celles de ma femme, repartit Dubois. »« De votre femme ?»« Oui, de ma femme qui vient d'arriver de Paris et de laquelle je suis fort jaloux, je vous en préviens. » « Diable, murmura Gaston, c'est probablement le mari de la personne chargée de veiller sur Hélène. » Et, par un retour subit sur lui-même, afin de se ménager ce personnage important dont il pouvait avoir besoin plus tard, « Monsieur, dit-il, en saluant poliment Dubois, s'il en est ainsi, c'est autre chose. Je suis prêt à vous céder la place, car je me promenais sans aucun but. » « Diable, fit Dubois, voilà un conspirateur bien poli. Ce n'est pas mon compte, il me faut une querelle. » Gaston s'éloignait. « Vous me trompez, monsieur, dit Dubois. » Le chevalier se retourna aussi vivement que si un serpent l'eût mordu. Cependant, prudent à cause d'Hélène, prudent à cause de la mission qu'il avait entreprise, il se contint. « Monsieur, dit-il, est-ce parce que j'y mets des formes que vous doutez de ma parole ?» Vous y mettez des formes parce que vous avez peur, mais il n'en est pas moins vrai que je vous ai vu regarder à cette fenêtre. Peur, moi, peur, s'écria Chanlay, se retournant d'un seul bond en face de son antagoniste. N'avez-vous pas dit que j'avais peur, monsieur? Je l'ai dit, répondit Dubois. Pas que Dieu, s'écria Gaston en tirant son épée. Allons, monsieur, flamberge au vent. « Et vous, habit bas, s'il vous plaît, dit Dubois, jetant son manteau et s'apprêtant à en faire autant de son habit. »« Habit bas, pourquoi faire ?» demanda le chevalier. « Parce que je ne vous connais pas, monsieur, et que les coureurs de nuit ont parfois leurs habits prudemment doublés d'une cotte de maille. » À peine Dubois avait-il prononcé ces mots que le manteau et l'habit du chevalier étaient loin de lui. Mais au moment où Gaston, l'épée nue, s'élançait sur son adversaire, l'homme ivre l'a roulé dans ses jambes, le joueur de guimbarde lui saisit le bras droit, l'exempt le bras gauche, et le quatrième qu'on n'avait pas vu le prit à bras le corps. « Un duel, monsieur !» criaient ces hommes, « un duel, malgré la défense du roi !» Et il l'entraînait vers la porte sur les degrés de laquelle était couché l'homme ivre. Un assassinat, murmurait Gaston entre ses dents, n'osant crier de peur de compromettre Hélène. Misérable. Monsieur, nous sommes trahis, disait Dubois, tout en roulant en paquet l'habit et le manteau du chevalier et en le mettant sous son bras. Mais nous nous retrouverons demain, soyez tranquille. Et il courait à toutes jambes vers l'hôtel, tandis qu'on enfermait Gaston dans la salle basse. Dubois monta les escaliers en deux sauts et, s'enfermant dans sa chambre, tira le précieux portefeuille de la poche du chevalier. Dans une poche particulière, il renfermait un sequin brisé par la moitié et un nom d'homme. Le sequin était évidemment un signe de reconnaissance. Le nom était sans doute celui de l'homme auquel Gaston était adressé et qui s'appelait le capitaine La Jonquière. Le papier était en outre taillé d'une certaine façon. « La Jonquière, murmura Dubois, La Jonquière, c'est cela. Nous avons déjà l'œil sur lui. Très bien. » Il feuilleta rapidement tout le reste du portefeuille. Il n'y avait pas autre chose. « C'est peu, dit-il, mais c'est assez. » Il tailla un papier sur la forme de l'autre, prit le nom, puis il sonna. On frappa doucement à la porte. La porte était fermée en dedans. « C'est vrai, dit Dubois, je l'avais oublié. » Et il alla ouvrir. C'était Monsieur Tapin. « Qu'en avez-vous fait ?» demanda Dubois. « Il est enfermé dans la salle basse et gardé à vue. Reportez ce manteau et cet habit où il les a jetés, afin qu'il les retrouve à la même place. Faites-lui vos excuses et le mettez dehors. Prenez garde que rien ne manque aux poches de l'habit, ni le portefeuille, ni la bourse, ni le mouchoir. Il est urgent qu'il n'ait aucun soupçon. » Du même coup, je me rapporterai mon habit et mon manteau à moi, qui sont restés sur le champ de bataille. » Monsieur Tapin s'inclina jusqu'à terre et se retira pour accomplir les ordres qu'il avait reçus. Toute cette scène, comme nous l'avons dit, s'était passée dans la ruelle qui s'étendait sous les fenêtres d'Hélène. Elle avait donc entendu le bruit de la rixe, et comme au milieu de toutes les voix elle avait cru entendre celle du chevalier, elle s'était rapprochée avec inquiétude de la fenêtre, lorsqu'en ce moment même la porte de sa chambre s'ouvrit et Madame Desroches entra. Elle venait prier Hélène de passer au salon, la personne qui devait lui faire visite étant arrivée. Hélène tressaillit et se sentit près de défaillir. Elle voulut interroger, mais la voix lui manqua. Elle suivit donc Madame Desroches, muette et tremblante. Le salon dans lequel l'introduisait sa conductrice était sans lumière aucune. Toutes les bougies en avaient été soigneusement éteintes. Et la cheminée seule, dans laquelle brillait encore un reste de feu, lançait sur le tapis une lueur imperceptible qui ne montait pas jusqu'au visage. Encore Madame Desroches prit-elle une carafe et versa-t-elle sur cette flamme mourante un peu d'eau qui fit entrer la chambre dans une complète obscurité. Alors Madame Desroches, après avoir recommandé à Hélène de n'avoir aucune crainte, se retira. Un instant après, la jeune fille entendit une voix derrière cette quatrième porte qui ne s'était pas encore ouverte. Elle tressaillit au nom de cette voix. Elle fit presque malgré elle quelques pas dans la direction de cette porte et écouta avidement. « Est-elle prête ?» disait la voix. « Oui, monseigneur, » répondit Madame Desroches. « Monseigneur, » murmura Hélène, « qui donc, mon Dieu, va venir ici ?»« Ainsi, elle est seule. »« Oui, monseigneur. »« Prévenue de mon arrivée. »« Oui, monseigneur. »« Nous ne serons pas interrompus. » « Monseigneur peut compter sur moi. »« Et pas de lumière. »« Obscurité complète. » On entendit les pas qui se rapprochaient, puis ils s'arrêtèrent. « Voyons franchement, Madame Desroches, » dit la voix, « l'avez-vous trouvée aussi jolie qu'on le dit ?»« Oh, plus belle que ne le peut se figurer votre Altesse. »« Votre Altesse, mon Dieu, que dit-elle donc là ?» murmura la jeune fille près de s'évanouir. Au même instant, la porte du salon grinça sur ses gonds dorés. Un pas assez lourd, bien qu'étouffé par un épais tapis, fit en s'approchant craquer le parquet. Hélène sentit tout son sang qui affluait vers son cœur. « Mademoiselle, dit la même voix, veuillez, je vous prie, me recevoir et m'entendre. »« Me voici, murmura Hélène, presque mourante. Vous êtes effrayée ?» « Je l'avoue, mon, dirais-je, monsieur ou monseigneur, dites mon ami. » En ce moment, sa main toucha celle de l'inconnu. « On dirait qu'il tremble aussi, » murmura-t-elle. « Voyons, qu'avez-vous, dit l'inconnu, est-ce que je vous fais peur, cher enfant ?»« Non, » répondit Hélène, mais en sentant votre main serrer la mienne, une sensation étrange, un frémissement incompréhensible. « Parlez-moi, Hélène, » dit l'inconnu, avec une expression de tendresse infinie. « Je sais déjà que vous êtes belle, mais c'est la première fois que j'entends le son de votre voix. Parlez, je vous écoute. »« Mais vous m'avez donc déjà vu ? Demanda gracieusement Hélène. Vous rappelez-vous qu'il y a 2 ans, l'abbesse des Augustines fit faire votre portrait ?
Oui, je me souviens, par un peintre qui vint tout exprès de Paris, à ce qu'on m'assura.
Ce peintre, c'est moi qui l'avais envoyé à Clisson.
Et ce portrait vous était destiné ?
Ce portrait, le voici, répondit l'inconnu en tirant de sa poche une miniature que l'on ne pouvait voir, mais qu'il fit toucher à Hélène.
Mais quel intérêt pouvez-vous avoir à faire faire et ensuite à garder ainsi le portrait d'une pauvre orpheline ?
Hélène, répondit l'inconnu après un instant de silence, je suis le meilleur ami de votre père.
De mon père ? S'écria Hélène. Est-il donc vivant ?
Oui.
Et je le verrai un jour ?
Peut-être.
Oh, soyez béni, reprit Hélène en serrant à son tour les mains de l'inconnu. Soyez béni, vous qui m'apportez cette bonne nouvelle.
Cher enfant, murmura l'inconnu.
Mais Sylvie, continua Hélène avec un léger sentiment de doute, comment donc a-t-il tant tardé à s'informer de sa fille ?
Il avait de vos nouvelles tous les mois, et quoique de loin, il veillait sur vous, Hélène.
Et cependant, reprit Hélène avec un accent de respectueux reproche, vous l'avouerez vous-même, depuis 16 ans, il ne m'a pas vu.
Croyez, reprit l'inconnu, qu'il a fallu des considérations de la plus haute importance pour qu'il se privât de ce bonheur.
Je vous crois, monsieur, ce n'est point à moi d'accuser mon père.
Non, mais c'est à vous de lui pardonner s'il s'accuse lui-même.
« Moi, de lui pardonner ?» s'écria Hélène étonnée.
« Oui, et ce pardon qu'il ne peut vous demander lui-même, cher enfant, c'est moi qui viens vous le demander en son nom. »«
Monsieur, dit Hélène, je ne vous comprends pas. »
Il y eut un instant de silence, comme si l'inconnu voulait d'un seul coup rappeler tous ses souvenirs. Puis il continua.
« Votre père avait un commandement dans les armées du feu roi. » À la bataille de Neerwind, il avait chargé à la tête de la maison du roi, et un de ses écuyers, nommé Monsieur de Chaverny, tomba près de lui, percé d'une balle. Votre père voulut le secourir, mais la blessure était mortelle, et le blessé, qui ne s'abusait pas sur sa position, lui dit en secouant la tête, « Ce n'est pas à moi qu'il faut penser, mais à ma fille ». Votre père lui serra la main en signe de promesse, et le blessé, qui s'était soutenu sur un genou, retomba et mourut, comme s'il n'eût attendu que cette assurance pour fermer les yeux.
« Vous m'écoutez, n'est-ce pas, Hélène ? » interrompit l'inconnu.
Oh, « Vous le demandez ? » s'écria la jeune fille.
« En effet, continua le narrateur, la campagne terminée, le premier soin de votre père fut de s'occuper de la petite orpheline. » C'était une charmante enfant de 10 à 12 ans qui promettait à cet âge d'être belle comme vous l'êtes à présent. La mort de Monsieur de Chaverny, père, lui enlevait tout appui et toute fortune. Votre père la fit entrer dans le couvent de la Visitation des Dames du Faubourg Saint-Antoine et annonça d'avance que, lorsque l'âge de la pourvoir serait venu, c'était lui seul qui se chargerait de la dot.
« Merci, mon Dieu, s'écria Hélène, merci de m'avoir fait la fille d'un homme qui tenait si fidèlement sa promesse. »«
Attendez, Hélène, reprit l'inconnu, car voici le moment où votre père va cesser de mériter vos éloges. » Hélène se tut et l'inconnu continua.
« Votre père, en effet, comme il s'y était engagé, veilla sur l'orpheline qui atteignit sa 18e année. » C'était alors une adorable jeune fille. Aussi, votre père sentit-il que ses visites au couvent devenaient plus fréquentes et plus longues qu'il ne convenait. Votre père commençait à aimer sa pupille. Son premier mouvement fut de s'effrayer de cet amour, car il songeait à la promesse qu'il avait faite à Monsieur de Chaverny, blessé et mourant, et il comprenait que c'était la maltenir que de séduire sa fille. Aussi, pour lui venir en aide, chargea-t-il la supérieure de s'informer d'un parti convenable à Mademoiselle de Chaverny, et apprit d'elle que son neveu, jeune gentilhomme de Bretagne, ayant vu sa pensionnaire en venant la visiter elle-même, en était devenu amoureux, et s'était déjà ouvert à elle du grand désir qu'il aurait d'obtenir sa main.
« Eh bien, monsieur, demanda Hélène, voyant que l'inconnu hésitait à continuer,
Eh bien, l'étonnement de votre père fut grand, Hélène, lorsqu'il apprit de la bouche même de la supérieure que mademoiselle de Chaverny avait répondu qu'elle ne voulait pas se marier, et que son plus vif désir était de demeurer dans le couvent où elle avait été élevée, et que le jour le plus heureux de sa vie serait celui où elle y prononcerait ses vœux. « Elle aimait quelqu'un ?» dit Hélène. « Oui, mon enfant, répondit l'inconnu, vous l'avez deviné. Hélas, on ne peut fuir sa destinée. Mademoiselle de Chaverny aimait votre père. Longtemps, elle renferma son secret dans son cœur, mais un jour que votre père la pressait de renoncer à cet étrange projet de prendre le voile, la pauvre enfant, ne pouvant y tenir plus longtemps, lui avoua tout. Fort contre son amour, tant qu'il n'avait pas cru son amour partagé, il faiblit lorsqu'il vit qu'il n'avait plus qu'à désirer pour obtenir. Ils étaient si jeunes tous deux. Votre père avait 25 ans à peine. Mademoiselle de Chaverny n'en avait pas encore 18. Ils oublièrent le monde entier pour ne se souvenir que d'une chose, c'est qu'ils pouvaient être heureux. Mais puisqu'ils s'aimaient ainsi, demanda Hélène, pourquoi ne se mariaient-ils pas? Parce que, répondit l'inconnu, toute union était impossible entre eux à cause de la distance qui les séparait. Ne vous a-t-on pas dit, Hélène, que votre père était un très grand seigneur? Hélas oui, répondit Hélène, je le sais. Pendant un an, continua l'inconnu, leur bonheur fut entier et dépassa leurs propres espérances. Mais au bout d'un an, Hélène, vous vîntes au monde, et, murmura timidement la jeune fille, et votre naissance coûta la vie à votre mère. Hélène éclata en sanglots. Oui, continua l'inconnu d'une voix émue par ses souvenirs, oui, pleurez, Hélène, pleurez votre mère, c'était une sainte et digne femme, dont, à travers ses chagrins, ses plaisirs, ses folies peut-être, votre père, je vous le jure, a gardé un noble souvenir. Aussi reporta-t-elle sur vous tout l'amour qu'il avait pour elle. Et cependant, dit Hélène avec un léger accent de reproche, mon père a consenti à m'éloigner de lui, et cependant, depuis ma naissance, mon père ne m'a pas revue. Hélène, reprit l'inconnu, sur ce point, pardonnez à votre père, car sur ce point, il n'y a pas de sa faute. Vous vîntes au monde en 1703, c'est-à-dire au moment le plus austère du règne de Louis XIV, votre père étant déjà tombé dans la disgrâce du roi, ou plutôt dans celle de Madame de Maintenon, pour vous peut-être plus encore que pour lui, il se décida à vous éloigner. Il vous envoya en Bretagne, vous confia à la bonne mère Ursule, supérieure du couvent où vous avez été élevée. Enfin, le roi Louis XIV étant mort, et toutes choses ayant changé en France, il s'est décidé à vous faire venir près de lui. Pendant toute la route, au reste, vous avez dû remarquer que sa sollicitude veillait sur vous, et aujourd'hui même, quand il a su que vous deviez arriver à Rambouillet, eh bien, il n'a pas eu le courage d'attendre à demain, il est venu au-devant de vous, Hélène. « Oh mon Dieu !» s'écria Hélène, « cette émotion dans votre main qui tremble. Monsieur, monsieur, vous dites que mon père est venu au-devant de moi ?»«
Oui. »«
Ici, à Rambouillet ?»«
Oui. »«
Vous dites qu'il a été heureux de me revoir ?»«
Oui, bien heureux. »
Mais ce bonheur-là ne lui a point suffi, n'est-ce pas? Il a voulu me parler, il a voulu me dire lui-même l'histoire de ma naissance, il a voulu que je puisse le remercier de son amour, tomber à ses genoux, lui demander sa bénédiction. « Oh !» s'écria Hélène en s'agenouillant, « Oh, je suis à vos pieds, bénissez-moi, mon père !»«
Hélène, mon enfant, ma fille !» s'écria l'inconnu, «
Oh, pas à mes genoux, dans mes bras, dans mes bras !»« Oh, mon père !» murmura Hélène. Et cependant, continua l'inconnu, cependant j'étais venu dans une autre intention, j'étais venu décidé à tout nier, à rester un étranger pour toi, mais en te sentant là près de moi, en serrant ta main, en écoutant ta voix si douce, j'en ai pas eu la force. Seulement, ne me fais pas repentir de ma faiblesse et qu'un secret éternel...
« Ah, par ma mère, je vous le jure !» s'écria Hélène.
« Eh bien, c'est tout ce qu'il faut, reprit l'inconnu. Maintenant, écoutez-moi, car il faut que je vous quitte.
Déjà, mon père, il est le chaud. Ordonnez, mon père, j'obéirai. Demain, vous partirez pour Paris. La maison qui vous est destinée vous attend. Madame Desroches, qui a mes instructions, vous y conduira, et là, au premier moment que me laisseront mes devoirs, j'irai vous voir. Bientôt, n'est-ce pas, mon père, car n'oubliez pas que je suis seul au monde, le plus tôt que je pourrai. Et approchant une dernière fois ses lèvres du front d'Hélène, l'inconnu y déposa un de ces suaves et chastes baisers qui sont aussi doux au cœur d'un père qu'un baiser d'amour au cœur d'un amant. 10 minutes après, Madame Desroches rentra, une bougie à la main. Hélène était agenouillée et priait, la tête appuyée sur un fauteuil. Elle leva les yeux et, sans interrompre sa prière, fit signe à Madame Desroches de poser la bougie sur la cheminée. Madame Desroches obéit et se retira. Hélène pria quelques minutes encore, puis elle se leva. De son côté, Gaston, rendu à la liberté, avec force excuse de la part de ceux qui l'avaient arrêté et qui prétendaient l'avoir pris pour un autre, était allé ramasser, plein d'anxiété, son habit et son manteau, qu'il avait, à sa grande joie, retrouvé à la même place. Et puis, accourant aussitôt à l'hôtel du Tigre Royal, il s'était soigneusement enfermé dans sa chambre et avait précipitamment ouvert son portefeuille. Son portefeuille était dans le même état où il l'avait laissé, parfaitement intact, et dans la poche particulière, il retrouva la moitié de la pièce d'or et l'adresse du capitaine La Jonquière, que, pour la plus grande sûreté même, il brûla aussitôt. Pendant ce temps, deux voitures partaient de l'hôtel du Tigre Royal. La première, dans laquelle étaient deux gentilshommes en livrée de chasse, était ardemment éclairée et précédée et suivie de deux piqueurs à cheval. La seconde, sans lanterne et qui renfermait un simple voyageur enveloppé de son manteau, suivait la première à 200 pas de distance sans la perdre un instant de vue. À la barrière de l'étoile seulement, elles se séparèrent, et tandis que la voiture ardemment éclairée s'arrêtait au pied du grand escalier du palais royal, la voiture sans lumière s'arrêtait à la petite porte de la rue de Valois. Toutes deux, d'ailleurs, étaient arrivées sans accident.